Je vais vous faire une petite introduction rapide, puisque on va être important pour la lecture de cet après-midi. On va à Santorin. Santorin, c'est une île volcanique. Il y a très peu d'autres choses que Santorin qui est volcanique. Donc ça vous montre ici que c'est pour faire quelque chose d'exceptionnel, puisque c'est un livre ouvert. On va pouvoir voir l'histoire des volcans. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce que c'est que Santorin, où est-ce que c'est situé dans le cadre géodynamique général, et puis un peu plus sur l'île. Bon, c'est simplement pour que vous compreniez un peu ce que vous allez voir cet après-midi. Donc, quel est le contexte général? Donc, voilà ici la mer Égée, la Turquie, la Grèce. Donc, il y a deux choses importantes. C'est que d'une part, il y a une zone de subduction ici. La zone de subduction, c'est la zone de subduction qu'on appelle hellénique. Voilà. Ça descend pas très vite, 100 000 par an. Et puis, la zone de subduction, en fait, elle est en train de pousser un petit peu, et il y a des points plus généraux qui sont liés à la technique plus globale, avec ici une grande faille qui s'appelle la faille nord-anatolique, qui vient cisailler ici toute cette partie du monde qui se connecte en Anatolie. C'est la faille responsable des gros tremblements de terre de Turquie. La mer de Marmara, ici, est une des conséquences de cette faille-là. Donc vous voyez que les mouvements sont un peu compliqués. Le résultat, en fait, c'est que dans ce cas-là, vous êtes en train de cisailler, de tordre ici toute cette région qui est en extension. Donc ici vous avez une chose, c'est le volcan de l'arc volcanique, c'est typique des volcans de subduction. Les Santorins ici, et il y en a d'autres, il y a Nicéros ici, il y a d'anciens volcans qui sont devenus inactifs comme les Gines ici, et je crois qu'il a arrêté son activité il y a à peu près une dizaine d'années. Voilà. Donc une extension assez forte des Santorins ici. C'est le volcan le plus actif du point. Nicéros, c'est un volcan qui est pour l'instant dans un stade de retardement, mais qui fait beaucoup de sismicité. Donc l'extension ici, vous voyez, est assez importante. Et c'est cette extension qui localise ces centres volcaniques. Donc pour vous montrer, alors, c'est, je vous montre une meilleure image, j'ai cherché ça après, mais je vous montre aussi le coup vertical à travers cette région-là. Donc maintenant, là, c'est pas la même, c'est pas au centre du sud ici, le nord est là. Donc on fait une coupe qui va permettre de voir ce qui se passe entre la zone de subduction et le Santorin. Donc ce que vous avez ici, c'est des anomalies de vitesse sismique dans le manteau terrestre, à profondeur de 50 km. Une anomalie positive de vitesse, ça veut dire que les vitesses sont plus rapides, ça veut dire que le matériau est plus froid, grosso modo, plus vous chauffez un matériau, plus il sera brûlé, donc plus les vitesses sismiques baissent. Donc une vitesse positive, c'est assez froid. Ce que vous voyez ici, c'est le panneau pendant, c'est la subduction, ici, ce point bien sous. Les petits points blancs sont des tremblements de terre. Vous voyez que, évidemment, ici, toute la région est sous des fortes contraintes qui font des tremblements de terre. Les tremblements de terre ici, par contre, sont liés à la subduction elle-même, le Santorin. Voilà, et c'est un volcan qui est en partie à la subduction. Donc, si vous regardez cette carte-là, c'est une carte tectonique plus précise de la région. Donc, encore une fois, on montre ici la fosse de subduction. Ces petites balles sont des sont appelés des chrysophoïdes, qui veut dire de quel tremblement de terre il s'agit. Donc ça, c'est des tremblements qu'on appelle un chevauchement. C'est quelque chose qui est en train de s'enfoncer en sur l'horizontale. Et donc c'est le cas de la subduction. Par contre, vous voyez qu'au voisinage ici de Santorin, les tremblements de terre n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Ce sont des tremblements de terre qu'on appelle en faille normale, c'est-à-dire simplement quand il y a une extension, il y a des panneaux qui s'effondrent par rapport à en descente. Donc ici, c'est la phase de l'extension. Donc vous avez plusieurs petits fossés d'extension ici, et c'est là que se localisent les volcans. Vous voyez qu'ils sont espacés d'une certaine distance, évidemment qui est intéressante. Et pour l'instant, c'est des choses qu'on n'avait pas à modéliser en détail, mais c'est tout ceci, c'est pas observé. Hein, les volcans sont toujours espacés d'une certaine distance. Vous voyez aussi que dans chacun de ces petits fossés d'extension, vous avez plusieurs volcans qui vont s'aligner dans l'axe. Donc ça, cette localisation de l'organisme, elle est liée à l'extension. La source des magmas, elle est liée à la subduction. Donc voilà une carte topographique un peu plus précise de cette ligne volcanique qui est, à laquelle appartient Santorin. Donc Santorin est ici, vous connaissez la forme de l'île. Et puis il y a d'autres volcans, un volcan plus ancien qui était ici au-dessus, et puis il y a un volcan qui est encore qui est très actif, qui est le volcan Colombo, qui a fait une éruption en 1750, hein, c'est même si c'est au niveau de la mer, ça a été bien remarqué par les gens qui étaient déjà dans le coin. voyez que la structure de son plan est un peu compliquée. C'est pas une seule caldeira. Vous pouvez reconnaître tout simplement avec le fait que la ligne d'écoute est compliquée, que en fait ça ne s'est pas produit une seule fois. La dernière caldeira qui date de 1600 avant Jésus-Christ, c'est la caldeira qu'on appelle Minoen. C'est une éruption, elle a été appelée comme ça parce que c'est une éruption qui a probablement précédemment fragilisé la civilisation crétoise. Donc c'est cette caldeira qui est au mais il avait déjà été bien secoué par les cycles précédents que je vous décris rapidement. Donc voilà cette île, vue de haut. Donc ça c'est l'île qu'on va visiter, c'est le volcan actif à l'heure actuelle, je vous montrerai les dates. Et pour resituer un peu, donc on est ici, là. La ville principale c'est Firin qui est ici, Akrotiri qui est la ville ancienne qui est engloutie par les cendres, elle est par là. Donc il y a un petit bout de socle granitique qui est par là, qui sont à l'intérieur du les roches plus anciennes qu'on a repérées sont là, 600 000 ans. D'autres très anciennes par là, 500 000 ans. Évidemment, elles sont difficiles à retrouver parce que le volcan, depuis, s'est construit, s'est redécrit. Donc, les premières traces ont largement été effacées par les constructions ultérieures. Là, nous nous sommes assis sur, devinez peut-être les pentes que l'on voit lorsqu'on regardait depuis l'IA vers l'océan, à la mer, pardon. Ça, c'est un grand volcan de type qui ressemble à un volcan bouclier. C'est pas tout à fait un volcan bouclier parce qu'il a des pentes un peu plus fortes. Et c'est le volcan qui a été détruit par l'éruption minoenne. C'est ce volcan-là. Et on peut deviner ici, avec votre voir, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le bouclier de Scaros, qui s'est construit, commencé à être construit en 1975. Donc, ça, c'est le vallée là, le bouclier de Scaros. Vous voyez que c'est très intéressant parce que vous voyez toute cette stratification-là ici. Ce sont des coulées de lave successives qui sont venues construire ce bouclier. Donc, voilà tous les âges. Ça demandait beaucoup d'études. Ça fait l'objet de. Ça rassemble, il y a à peu près une quinzaine d'années d'études, plusieurs études de volcanologue. Donc, voilà la date d'âge, ça prend milliers d'années. Zéro, c'est l'actuel, 100 000 ans, moins 200 000 ans, moins 300 000 ans, moins 600 000 ans, je l'ai dit. Et les cours volcaniques les plus anciens dataient d'à peu près 600 000 ans. Et vous voyez que les éruptions de manière continue depuis 600 000 ans. Alors, ce qui est important, c'est que on a des cycles, je vous décris un peu plus précisément, les activités sont depuis environ 400 000 ans, c'est produit en deux cycles. Parfaitement répétitif, le premier et le deuxième. Le volcan Kameni qui est en train de faire l'île que nous avons visité cet après-midi, c'est le début d'un troisième cycle qui a l'air parfaitement identique aux deux précédents. Avant, ce n'était pas tout à fait identique, mais c'est pas non plus très différent. Et ces deux cycles-là sont quasiment identiques. Donc il y a une répétabilité assez fascinante du volcanisme ici. Je vous montre ça d'une autre manière, pour resituer un peu plus l'âge. Ces grandes flèches, c'est deux, ça sépare le début du premier cycle, le début du deuxième cycle. Et vous voyez les grandes éruptions à caldeira, donc des éruptions qui conduisent à des grosses destructions de l'île, elles sont en rouge ici. Donc vous voyez qu'il y a des grosses éruptions, presque 30 000 ans dans ce coin-là. 30 000 ans, c'est un chiffre caractéristique pour le remplissage d'un réservoir et sa vidange. C'est la vidange qui conduit à l'effondrement d'Amérique. Il y a les deux grands cycles qui sont marqués ici, qui durent environ 180 000 à 150 000 ans. Ces grands cycles sont définis par des variations de la composition des laves que je vais vous décrire après. Donc, une fois qu'il y a eu l'éruption minoenne, 1600 avant Jésus-Christ, eh bien, on est passé vers le cycle actuel qui est l'édification de l'île au milieu de la caldeira. Il y a eu un petit épisode caldérique en 726 après Jésus-Christ. Et vous voyez qu'il y a des éruptions qui ont été datées, on en a plus à l'heure actuelle, parce que c'est plus facile de les dater, vous allez voir. Donc c'est un volcan qui est actif, hein. Déjà l'île, elle est à peu près un peu au-dessus du niveau de la mer, et en fait, elle est assise sur un soubassement, c'est le fond de la caldeira, qui a un peu plus de 350 mètres de fond. Donc en 3600 ans, son caldeira a déjà reconstitué un liquide de 350 mètres de haut, c'est tout à fait vrai. Si vous poursuivez ça longtemps, vous verrez que évidemment, vous pouvez accumuler, c'est en quelques milliers d'années. c'est pas, peu importe ce que c'est en détail, mais ce qui est important, c'est de voir que dans le temps, c'est comme dans beaucoup d'autres temps, la composition des lèvres évolue au cours du temps. Donc ici, c'est un diagramme qui vous montre la composition en silice, puis en calcium, puis cette série alcaline. Voilà les grands domaines que j'ai définis, dont j'ai beaucoup parlé, basalte, andésite, acide, éolite. Hein. Et vous voyez que toutes les laves qu'on a retrouvées à Saint-Laurent, elles couvrent toute la gamme, elles ne vont pas jusqu'au éolite, mais elles couvrent toute cette gamme de composition. Donc un relevant comme ça, c'est un relevant qui fait les solutions climatiques. Je n'ai pas montré les données, mais les volatiles contenus en eau augmentent systématiquement lors de la différenciation. Donc vous passez du basalte à la lave d'acide, vous avez de plus en plus d'eau en solution, donc un volcanisme qui est de plus en plus explosif. Donc voilà, donc ça c'est une séquence de cristallisation fractionnée. Ça veut dire évidemment que puisqu'il y a une cristallisation fractionnée, tout ça, ça vient des basaltes, parce qu'il y a des réservoirs qui se forment dans l'île, et que c'est dans ces réservoirs que se produit la cristallisation. Et c'est ces réservoirs-là qui vont donner ces produits qui évoluent dans le temps, et avec en plus donc, les conduits relatifs qui évoluent aussi, qui sont responsables d'une activité de plus en plus explosive. Donc la dernière éruption, c'est l'éruption minoenne, là voilà, hein, c'est une éruption rigotacide, donc c'est la très évoluée, qui est là, qui est très riche en volatiles, d'où ce grand caractère explosif. Donc voilà un résumé des cycles éruptifs à Saint-Laurent. Vous avez des cycles courts, de quelques dizaines de milliers d'années. C'est essentiellement lié au réservoir superficiel. Hein, vous remplissez le réservoir, vous cristallisez, vous différenciez, et puis bah, il se fait s'obtenir le poisson, et on commence. Ensuite, il y a des cycles un peu plus longs, qui sont manifestement liés à le système plombier profond. On peut faire des modèles hydrauliques de ça, si vous avez des réservoirs qui sont connectés, des variations de pression qui font qu'il y a des réagents qui se produisent. Et puis vous voyez que ici la source du volcanisme est active depuis 650 000 ans. Donc ça vous donne ici des pour donner une échelle constante de temps. En ce qui concerne les volumes, c'est grossier, mais ça vous montre ça pour comprendre comment ça marche. Donc ici on a 650 000 ans d'histoire. L'activité actuelle, donc, qui a à peu près 3500 ans, vous avez déjà comme 2,5 km3 qui sont sortis, c'est assez mal que ça quand même. Et puis le réservoir minoen, donc celui qui a conduit à la grande Caldera, c'est, on estime son volume correctement, ça fait 30 km3. Le conflit de Scarros, dont je vais parler, c'est 10 km3. Vous voyez que si on divise tout ça, vous avez un taux de retour magnétique. Alors il y a des erreurs, puisque les volumes ont. Puisque les éruptions ont dispersé les cendres, ça a été fait de la meilleure manière qu'on pouvait faire, mais c'est un peu plus rétable. Donc c'est toujours le même ordre de grandeur, c'est l'ordre du kilomètre cube par millier d'années. Donc c'est encore l'idée hein, que ici vous êtes assis sur un système magmatique dont la logique est à l'échelle des temps géologiques, non pas à l'échelle des temps humains. Donc vous avez un débit qui est quasi constant, qui est modulé par l'histoire de l'édifice, l'histoire des éruptions, mais en gros, ici vous avez une source qui vous produit un kilomètre cube de magma tous les milliers d'années.
J'aurais tendance à peut-être, je ne sais pas, mettre 15 et diviser le chiffre par 2, je serais aux alentours de 8, 9, 0, 8, 0, 9,
ça serait
pas mal.
Ces chiffres-là, selon les effets, c'est des chiffres, enfin si tu veux dire quoi, ces chiffres sont.
J'ai l'impression que le 30 kilomètres cubes, il est un peu surestimé.
Ah non, au contraire, il est vraiment sous-estimé.
Donc il y aurait une variation quand même.
Ça c'est. Probablement pas mauvais, ça c'est vraiment sous-estimé parce que c'est une éruption explosive qui a dispersé des cendres, donc j'en ai perdu une petite partie, on a fait du mieux pour le reconstituer, mais c'est probablement un peu sous-estimé. C'est pas moi qui fais ça, donc je peux pas te dire. Donc, l'autre chose qui est importante, c'est que puisque j'ai de la différenciation, chaque fois que j'ai des lames qui sont différenciées des lames, j'ai laissé au profond des choses qui sont cristallisées, donc. Compte tenu des bilans qu'on peut faire entre ce qui a été éjecté et ce qui est resté, on peut investir la moitié qui est restée. Ça, c'est pas trop mauvais, c'est fait sur des bilans de masse à partir de la composition, de la composition du liquide initial, donc on est à la position du liquide évolué, donc on sait combien il est cristallisé pour faire ça. Si vous divisez par la surface en ligne de l'île, je parle de la surface totale là, sur son socle, ça fait à peu près 10 km de roche sur la surface de l'île. Dans la côte profonde, qui sont en fait des plutons. avancer plus rapidement. Je vous montrer simplement que quand on va voir le bateau, vous allez pouvoir en voir sur les îles. Donc là, c'est Iga, c'est le Carlos. Quand on le bateau déposera par là, c'est sous la tour de Fira. Et je vous montre simplement rapidement. Middle Babis, c'est le début du dernier site avant la grande éruption en Bavane. C'est pour vous montrer comment on développe notre travail. C'est des horizons qui sont repérés facilement parce qu'ils ont certaines caractéristiques. Donc c'est des horizons stratigraphiques qui permettent de baser la stratigraphie. Après, une fois que vous avez ça, peut-être repérer systématiquement dans le voir chaque bout de roche. Vous imaginez que le volcanologue, c'est un être humain, il va travailler à cette petite échelle, c'est important qu'il soit des choses. Donc je vais vous regarder ça un peu plus précisément, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, les dépôts vont être à la pointe. Donc voilà la photo, ça c'est l'escalier qu'on doit monter quand on doit monter, le bateau ne déposera là, parce que ça prend du temps, sinon il y a un téléphérique, vous voyez ici, ça c'est le FIRA. Vous voyez ici cet horizon qui s'appelle Middle Babis, c'est un peu au-dessus du début du deuxième site, hein, celui qui s'est terminé dans l'éruption. Il y a une petite faille ici, donc le niveau ici est décalé, ça c'est la même chose. Voilà. Là vous avez des grandes laves hein, qui ont été déposées lors des phases plus tardives, et puis toute la ville de Fira est construite sur la ponce, hein, les appellations de la ponce. De l'éruption de l'homme. Vous voyez, si vous voulez reconstituer l'histoire, c'est simple, c'est une extension. Et puis ça, c'est les gros accumulations de la plus massive que vous connaissez. Et puis au sommet, il y a toutes ces pousses là, qui sont les ponts de l'éruption de l'homme. Donc c'était le deuxième, c'est ce que j'ai montré, c'est cet horizon qui s'est repéré là, et qui date à peu près de ce début du cycle. 180 000 ans. Donc c'est ça, Middle Babis. Je vous montre une photographie de la Flamand. Là, voilà, les Middle Babis. On perd ça parce qu'il y a des talus avec des effondrements. Ce que je vous montrerai dans le plateau, on verra sur ce côté-là, on verra des dikes qui sont verticaux, donc je vous montrerai quand on passe à droite le plateau. Donc maintenant, l'île actuelle, donc c'est Nea Kameni, c'est le volcanisme. Voilà la carte des coulées. Donc vous voyez que la dernière est en 1950. Donc on y entend comme ça. Je vois si c'est pas super spectaculaire, mais vous verrez ce que c'est qu'un conduit éruptif. Vous voyez que l'île, en fait, elle est constituée de coulées lave qui sont assez récentes. Hein, donc c'est un volcan qui est actif. Par-dessus là-bas, il n'y aura pas d'éruption quand on sera sur l'île.